Hello, Mortimer. Ah, mon cher Black. Désolé d'interrompre vos vacances, Mortimer, mais ça va mal.
Nesta!
Oui, monsieur.
Faites mes bagages.
Bien, monsieur.
Mais capitaine, vous n'allez pas...
Inutile d'insister, je lève l'ancre.
Corne debout! La barre à bâbord, tout! Arrêt à virer!
Alix, laisse ton bouclier, viens!
Vite! Les gladiateurs gagnent sur nous!
Captivant, captivant.
Allô?
Commandant Moran?
Oui?
Mon lieutenant, vous me laissez faire équipe avec Tanguy, s'il vous plaît?
Accordez la verdure,
ah,
vous parlez avec Tanguy.
Captivant, captivant. Le magazine de la bande dessinée.
Voici Raskar Kapak, celui qui déchaîne le feu du ciel.
Captivant, captivant.
Premier, Michel Vaillant, sur Vaillant numéro 10.
Captivant, une émission de Marc Dacier.
Je bois le restant de ma gourde de potion magique. Et on y va.
Bonsoir à toutes et à tous. Captivant, le magazine de la bande dessinée, comme tous les mercredis sur RVE, après les infos locales de 19h20 et jusqu'à 20h. Une émission réalisée par Christian ce soir. Exceptionnellement, nous avons décidé de délaisser provisoirement l'actualité des sorties d'albums. Hervé n'interviendra pas pour nous donner son conseil et vous n'aurez pas votre feuilleton. Rassurez-vous, vous retrouverez ces rubriques dès la semaine prochaine, mais ce soir, nous avons voulu consacrer toute l'émission à un sujet de fond, celui de l'économie de la bande dessinée. Vous le savez sans doute, la BD est un secteur économique en plein essor, le plus florissant de tous les secteurs de l'édition. Son chiffre d'affaires grossit d'année en année. Nous allons étudier le cercle vertueux dans lequel est actuellement ancrée l'économie de la bande dessinée, puis nous répondrons à la question « Où va l'argent d'un album de BD ?». Nous aurons au téléphone un petit éditeur associatif, Jean-Pierre Surest, patron bénévole de l'association normande de BD, avant, en fin d'émission, d'évoquer l'auto-édition, c'est-à-dire le cas des auteurs qui éditent eux-mêmes leurs albums. Nous aurons également des chansons ce soir, bien évidemment, et on commence avec Pink Floyd, un titre qui s'impose, étant donné le thème de notre émission, Monet.
Get back. I'm
Tiens, c'est mon ami l'archiviste, entrez, Stone.
Monsieur Mortimer, ça y est, je l'ai trouvé.
Quoi ? Le bouquin du Dr. Wade ?
Oui, dans une cape du journal. Un exemplaire dédicacé, tenez, voyez.
Hommage de l'auteur, Dr. Wade.
Mais, c'est pas possible ! Bon sang, quelle idée !
Mais qui a-t-il, monsieur Mortimer ?
Allô ? Scotland Yard ? Ici le professeur Mortimer. Il faut absolument joindre par radio l'inspecteur-chef Kendall et faire stopper l'opération en cours.
Mais, professeur...
Peut-on mettre une voiture radio à ma disposition ?
Ce sera très difficile. 12 voitures sont déjà engagées dans l'opération. Il faudrait attendre.
Non, c'est une question de seconde. Le capitaine Black est en danger de mort.
Depuis quelques années, la bande dessinée doit une fière chandelle à Black et Mortimer, Astérix et Gaston. À la fin 1996, leurs albums respectifs figuraient en tête des meilleures ventes de l'année. Cela a contribué à donner un coup de projecteur sur le secteur et à attirer l'attention des libraires. Résultat, les ventes de bandes dessinées décollent. Et au gré de la sortie de nouveaux albums stars, 13, Largo Winch, Titeuf, le secteur progresse de 5 à 20% par an. Tant et si bien qu'il s'écoule aujourd'hui 25 millions d'albums par an, soit un montant d'environ 60 millions d'euros. Et grâce à l'accroissement des bénéfices qui en découlent, les éditeurs peuvent soutenir de nouveaux talents et les aider à s'installer dans le paysage. En période de vache maigre, une telle politique de soutien à la création est beaucoup plus risquée, les nouveaux auteurs n'étant jamais rentables, enfin en tout cas presque jamais. Il y a quelques exceptions évidemment, mais c'est vrai que c'est quand même rare. Plus un éditeur possède de titres rentables dans son catalogue, plus les marges de manœuvre sont élevé pour installer de nouveaux dessinateurs sur le marché. Il ne faut pas oublier que 20% des auteurs font 80% des ventes. En gros, le grand public connaît une bonne dizaine d'auteurs alors qu'ils sont près de 1500 à tenter de se faire une place au soleil. Pour les y aider, les maisons d'édition parient sur les collections thématiques. En concentrant leurs moyens marketing sur un ensemble d'auteurs plutôt que sur une seule personne, qui plus est inconnue, elles peuvent espérer que l'un de ces poulains sortira du lot et assurera les bénéfices de demain. Le système de la collection est également un moyen de faire oublier les pertes d'hier, car quand une série rencontre son public, le lecteur va acheter les albums précédents. Or, ce réassort est primordial pour la survie des éditeurs. Une maison d'édition stable réalise la moitié de ses ventes sur des nouveautés et le reste sur le réassort. Bref, la bande dessinée est actuellement ancrée dans un cercle vertueux. La progression des ventes permet de lancer de nouveaux auteurs qui eux-mêmes font progresser les ventes. Mais comme tout cercle vertueux, il suffirait d'un rien pour qu'il devienne vicieux. Le danger qui nous guette est la surproduction, souligne Claude de Saint-Vincent, le PDG de Dargaud. Il y a 5 ans, on comptait 700 nouveautés par an. Aujourd'hui, on arrive à 1300. Le constat est identique chez Glénat où Dominique Burdeau redoute que cette déferlante de nouveaux albums nivelle la qualité par le bas et finisse par dérouter les lecteurs. Aujourd'hui, avec plus de 25 nouveautés par semaine, les libraires spécialisés eux-mêmes ne peuvent pas tout lire. Où va l'argent d'un album de bande dessinée ? C'est la question à laquelle on essaiera de répondre après Dire Straits, Money for Nothing.
What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install microwave oven. Custom kitchen deliveries. We got to move these refrigerators. We got to move these color TVs.
Captivant.
Oh, ils sont fous ces Romains.
Marc Dacier.
Où va l'argent d'un album de bande dessinée? C'est une question que vous vous posez peut-être lorsque vous achetez un album de bande dessinée 10 euros ou plus. Eh bien, c'est une question à laquelle on va essayer de répondre dans Captivant. Le postulat de départ, le prix de vente des albums fluctue selon le format, la pagination, la fabrication, etc. entre 8 euros et 12,50 euros environ, soit un prix moyen de 10,20 euros. C'est-à-dire bien moins que la plupart des autres livres, puisqu'un roman traditionnel est vendu en moyenne à plus de 18 euros, malgré un coût global moindre. En effet, ça coûte évidemment moins cher d'imprimer un livre dans lequel il n'y a que du texte, plutôt que d'imprimer un album cartonné en couleur. Afin d'être le plus clair possible, nous allons donc raisonner en pourcentage. Ainsi, la remise au libraire représente en moyenne 40% du prix de vente d'un album, c'est-à-dire lorsque vous achetez votre album de bande dessinée, 40% de ce que vous donnez au libraire eh bien, va dans la poche de ce même libraire. La fabrication, c'est-à-dire les frais techniques essentiellement liés à l'impression, représente plus ou moins 17%, la diffusion et la distribution 15%, l'éditeur prend 12,5% et l'auteur, c'est-à-dire les droits d'auteur, représente en moyenne 10% du prix de vente public d'un album. À ce chiffre manque 5,5%, me direz-vous, si vous êtes très très bon en calcul mental. 5,5%, ça ne vous rappelle rien, bah oui, évidemment, c'est l'incontournable TVA qui correspond à la somme donc ponctionnée par l'État. Cette fois, le compte est bon. L'occasion de tordre le cou à des idées qui ont la vie dure, l'éditeur ne récupère pas, loin de là, la plus grosse part du gâteau, 12,5% donc, je vous le rappelle. C'est sur cette marge réduite qu'il doit en plus assurer les dépenses de promotion des albums, les frais de fonctionnement et bien sûr la trésorerie de l'ensemble de la production. Il peut s'écouler en effet plus de 3 ans entre les premiers investissements et les premières ventes. De plus, tant qu'un livre existe dans le circuit, il a un coût. Même invendu, ce sont les frais de stockage notamment. Quoi qu'il en soit, l'édition n'est semble-t-il pas le meilleur moyen de faire fortune, à moins bien sûr d'éditer un best-seller. Revenons aux droits d'auteur. Vous pouvez calculer combien gagne environ votre auteur préféré si vous connaissez ses chiffres de vente. Prenons l'exemple le plus extraordinaire, histoire de faire rêver les apprentis dessinateurs de BD, Uderzo, qui est son propre scénariste. Astérix et la Traviata s'est vendu à 3 millions d'exemplaires en langue française, environ. Son prix de vente public étant d'environ 10 euros, pour simplifier, il a touché 1 euro fois 3 millions, c'est-à-dire 3 millions d'euros. C'est un minimum, car le pourcentage accordé à l'auteur augmente traditionnellement à partir d'un certain tirage. Et puis Uderzo est son propre éditeur. Alors, n'oublions pas en outre que le droit d'auteur s'applique aux anciens albums encore en vente et à tous les produits dérivés. Jouets et jeux, parcs d'attractions, films, vous comprenez peut-être mieux pourquoi Albert Uderzo peut collectionner les Ferrari. Soulignons tout de même que le papa d'Astérix est toujours contribuable français et qu'il n'a pas trahi la Gaule pour quelques paradis fiscaux ou havres helvétiques, comme d'autres auteurs à succès l'ont fait.
Attends Astérix, avant de partir, je vais montrer à ce barbare ce qu'il perd. Tiens, écoute de toutes tes oreilles, Romain. Mais lire mon temps, mais oui, madame, c'est là que j'ai retrouvé mon âme.
Il chante toujours comme ça.
Attends, toujours.
Et c'est lui le meilleur, le plus grand, le plus formidable des bardes?
Dites-donc, je peux continuer, oui.
Ah non.
Assurance, puisque le général veut la guerre, qu'il sache au moins pourquoi. Bon, eh ben allons-y alors.
Attendez. Vous savez, on dit des choses comme ça.
Oui.
Tenez, si on signait un petit armistice, un traité de paix, quoi. Chacun chez soi et pas de salade. Centurion,
oui.
Lâche ce casse et fais-nous porter de quoi écrire et une bonne amphore de vin.
De quoi écrire et du vin.
Pour conclure, résumons où va l'argent d'un album de bande dessinée. Le libraire récupère 40% du prix de vente public. La fabrication, ça représente 17%. La TVA, 5,5%. L'auteur prend 10%. L'éditeur, 12,5%. Et la diffusion-distribution, c'est 15% du prix de vente. Voilà. Et bien tout de suite, on retrouve Neja avec un titre de circonstance, All About The Money, tout à propos de l'argent.
RVE, positivement différent.
Tout de suite, nous allons vous proposer l'interview d'un petit éditeur de bande dessinée, puisqu'on parle ce soir de la bande dessinée en tant que secteur économique. Ce petit éditeur de bande dessinée, c'est Jean-Pierre Surest. Petit, ce n'est pas péjoratif, évidemment, dans ma bouche. Jean-Pierre Surest est le patron de l'ANBD, l'Association Normande de Bande Dessinée, qui est installée à Dieppe et qui fait un travail d'éditeur. Citons notamment Le Fleuve Mauve, de Jérôme Félix, Florent Hetz et Nicolas Terrain, où les BDphiles sont parmi nous, de Nicolas Terrain également. Jean-Pierre ne correspond pas à l'image caricaturale de l'éditeur, fumeur de gros cigares et portefeuille garni en conséquence. La NBD a un statut associatif, elle n'est donc pas particulièrement riche. J'ai demandé à Jean-Pierre Surest comment il finançait son activité d'éditeur.
Bon, voilà, bon, j'ai déjà monté cette association-là pour faire plaisir à deux jeunes auteurs qui, pour moi, avaient beaucoup de talent. Et alors moi, je finance cette association-là en cherchant de la publicité, en allant voir Pierre, Paul, Jacques, les mairies, les petites communes, pour arriver à souscrire à les BD que j'édite.
Oui.
Et en travaillant en souscription, j'arrive à un certain nombre, ce qui me permet d'éditer.
Oui. Par exemple, alors, parmi les albums que tu as édités, il y a Le Fleuve Mauve, qui est un album de bande dessinée locale, si l'on peut dire,
oui,
puisque la ville de Dieppe y est omniprésente.
Tout à fait.
Et pourtant, il ne s'agit pas d'une histoire de ville, mais d'une fiction avec un vrai scénario.
Voilà. Parce que je veux toucher... Alors, c'est-à-dire, ce qui est intéressant dans mon projet, c'est de toucher les gens qui aiment la bande dessinée. Bon, c'est une chose. Bon, les gens me l'achètent pour la bande dessinée. Et d'autres personnes qui ne connaissent pas la bande dessinée peuvent s'y mettre à ce niveau-là et aussi voir leur ville. Si tu veux, j'ai deux façons différentes de vendre. Donc c'est pour ça que le fonctionnement, ça fonctionne très bien à ce niveau-là.
Oui, parce que pour financer l'album, tu as sollicité de nombreux sponsors, comme tu le disais, la ville de Dieppe, le conseil général de Seine-Maritime, par exemple,
oui.
Mais aussi de nombreux commerces locaux.
Voilà. Alors, c'est-à-dire que dans la BD, bon, quand on prend surtout des photos, et quand on passe devant un commerce, donc le commerce, au commerçant, on lui demande s'il veut participer. Donc, on a fait un prix. Et s'il veut participer, son magasin est dessiné dans la bande dessinée. Et ce qui est logique, parce que bon, on essaye de pas trop que ça se voit trop, mais bon, le gars est très content parce qu'au niveau publicitaire, c'est très bon.
Oui, c'est une sorte de sponsoring et de partenariat intelligent, quoi.
Voilà.
Et ça permet d'avoir une bande dessinée qui soit une vraie histoire, voilà. Une vraie histoire de fiction, et en même temps qui dépeigne la ville.
Et voilà, c'est pour ça que, en gros, c'est le financement que j'arrive à faire. Et ce qui me permet de pouvoir payer les jeunes auteurs pour le travail.
Oui. Alors toi, par contre, tu n'es pas payé, tu es bénévole.
Ah, pas du tout, oui.
Et pourtant, tu as l'emploi du temps d'un éditeur, d'un commercial et même d'un agent d'auteur. Donc je crois qu'en fait, ta principale motivation, comme tu nous le disais en début d'interview, c'est d'aider les jeunes que tu parraines.
Voilà. Voilà. Moi, de toute façon, je m'occupe de bande dessinée depuis une vingtaine d'années. Bon, maintenant, depuis 3 ans, je ne travaille plus. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu monter un truc à moi, pour pouvoir aider les gens, les jeunes, comme je te disais tout à l'heure.
Alors, justement, qui sont ces jeunes?
Donc, il y a. J'ai Nicolas Sterrin, qui est coloriste et qui est aussi dessinateur, qui est peintre. Il y a aussi Florent Hetz, qui a fait un premier album aux éditions Triskel, 9 vies pour un 6 coups,
oui.
Comme dessinateur. Et il y a le scénariste Jérôme Félix, qui en ce moment, et a fait avec Florent Hetz, a fait 9 vies pour un 6 coups en tant que scénariste. Et en ce moment, il travaille aux éditions Soleil avec les deux auteurs des Aquanautes.
D'accord. J'imagine que, étant donné les problèmes de budget qui sont un peu serrés pour une association, tu essayes d'avoir des prix de la part des imprimeurs, par exemple.
Ben oui, bon, c'est-à-dire que là, j'ai essayé d'avoir des prix au niveau des imprimeurs, mais bon, en France, c'est assez dur. Il faut faire des très gros tirages. Donc, je me suis renseigné et théoriquement, je devrais faire imprimer en Espagne.
Combien ça coûte de faire imprimer un livre?
Ben, pour faire l'impression d'un livre, là, pour le moment, pour 3500 exemplaires, ça me revient à l'imprimeur, disons, à 50 000 francs. J'ai pas encore converti en euros.
Eh bien, merci beaucoup, Jean-Pierre.
Il n'y a pas de quoi.
Bon courage, merci. Et puis à une prochaine, et on tient nos auditeurs au courant des parutions des albums édités par la NBD.
Pas longtemps. Écoute-nous, tourne-nous. milliards de mille millions de mille chevaux.
Marc Dacier.
Nous allons, pour conclure cette émission consacrée à la bande dessinée en tant que secteur économique, par l'auto-édition, c'est-à-dire le fait pour un auteur de s'éditer lui-même. Le César du genre qui trône au zénith des Gaulois ombrageux, c'est évidemment Uderzo et son Astérix, arraché de haute lutte à Dargaud. Depuis, les éditions Albert René ont porté les premiers tirages à 3 millions. Et puis il y a celle qui, aux yeux de tous, fait figure de pionnière, Claire Bretécher, qui en 1975 osa publier elle-même Les Frustrés numéro 1. Alors pourquoi l'a-t-elle fait? Elle explique qu'elle trouvait gonflant, à l'époque, le rapport parent-enfant que les éditeurs entretenaient avec les auteurs. Il était impossible, explique Claire Bretécher, d'avoir des comptes précis, et puis je crois avoir un naturel méchant. Voilà, c'est l'époque post-underground où des tas de petits diffuseurs se lancent. L'un d'eux, B-Diffusion, lui achète ferme son premier album, 30 000 exemplaires payés intégralement par le diffuseur. Aucune avance à faire, heureusement pour Claire Bretécher qui n'avait pas un rond à l'époque. Tout va bien avec ce système-là, puisque les ventes sont assez énormes pour les frustrer, jusqu'à ce que le diffuseur fasse faillite. En désespoir de cause, Bretécher se fait distribuer un temps par Le Fleuve Noir, avant de rejoindre Interforum, puis Hachette, où elle se trouve très bien actuellement, avec des ventes moyennes de 100 000 exemplaires à la nouveauté. Certains autres auteurs se sont transformés en éditeurs pour rééditer leurs bouquins devenus introuvables. C'est le cas par exemple de Joël Azara qui réimprime chez Azeco les hilarantes aventures du sergent Taka Takata. Une entreprise familiale qui, elle, fonctionne très très bien, c'est celle de Jean Graton. Jean Graton, c'est l'auteur évidemment de Michel Vaillant. Entre 1959 et 1976, Jean Graton a publié 27 Michel Vaillant au Lombard. Georges Dargaud lui fait alors une proposition pour Julie Wood, une femme motarde dont son éditeur ne voulait plus. Raymond Leblanc, patron du Lombard, le menace d'un procès. Et vous savez, Graton, lui explique-t-il, je n'en ai jamais perdu un. C'est le clash entre l'éditeur et l'auteur. Après un bref passage chez Dargaud, le temps de 4 albums et une nouvelle fâcherie, Graton est édité par Coral, un éditeur allemand, qui publie de grandes séries dans l'hebdo Super As, mais doit s'arrêter en 1980. Novelli reprend le fond Coral, mais Graton en a marre. Philippe, le cadet de ses 3 fils, est rentré de l'armée en 1981. Jean Graton lui propose de jouer à l'éditeur. Nous connaissons tous les gens du métier, lui explique-t-il, éditons-nous nous-mêmes. Et c'est le début d'une entreprise familiale. Graton éditeur n'a pas de frais de bureau, pas de frais de personnel au début. Il faut juste les reins assez solides pour imprimer un album et attendre les rentrées. En tirant un peu la ficelle du côté imprimeur et un peu du côté diffuseur, il a réussi à joindre les deux bouts. Et depuis, c'est une maison d'édition, Graton éditeur, qui tourne très très bien.
Après toi, papa.
Merci, fiston.
Ah, messieurs Vaillant, père et fils, bonjour.
Bonjour, Zelle.
Je commençais à croire que le Grand Prix de Monaco allait se courir sans Michel Vaillant.
Vous savez ce que c'est. On se dit toujours, j'irai m'inscrire demain, et puis le temps passe.
Mais donne vite tes papiers, Michel. Ta mère nous attend pour déjeuner.
Voilà, mademoiselle.
Merci. Je vais faire le nécessaire. Vous pourrez venir signer demain. Oh. Excusez-moi. Automobile Club de Monaco, j'écoute.
On vous laisse travailler. Au revoir.
Au revoir, messieurs.
En conclusion, peut-on dire que le pari tenté et réussi en 1975 par Claire Bretécher, s'éditer soi-même quand on est un jeune auteur, est encore possible aujourd'hui? Claire Bretécher elle-même ne le croit pas. Le marché est trop encombré, les gros diffuseurs ne prennent que des séries installées. Je dirais à un jeune de choisir un bon éditeur, un gros de préférence, ça existe. Il suffit d'écouter le bouche à oreille. C'est sur cette réflexion que se termine ce numéro spécial de Captivant. La semaine prochaine, vous retrouverez les rubriques habituelles de votre émission. Captivant a été réalisé ce soir par Christian et on se quitte comme d'habitude avec du jazz. Un titre de circonstance, L'Inflation, un morceau signé et interprété par Guy Nadon. Bonsoir à tous.